Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus, le Christ, selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 15e dimanche. Voici qu'un spécialiste de la Torah se lève. Pour mettre Jésus à l'épreuve, il dit
« Maître, qu'ai-je à faire pour hériter d'une vie d'éternité ?»
Celui-ci lui dit
« Dans la Torah, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ?»
L'autre répond et dit
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Jésus lui dit
« Tu as répondu droitement, fais cela et tu auras la vie. »
Mais lui, voulant se montrer un homme droit, dit à Jésus
« Et qui est mon prochain ?»
Jésus reprend et dit
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tombe au milieu de bandits, il le dépouille, le roue de coups, puis ils s'en vont, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le voit et passe à l'opposé. » De même, un Lévite passe à cet endroit. Il voit et passe à l'opposé. Mais un Samaritain en voyage passe près de lui. Il voit et il est remué jusqu'aux entrailles. Il s'approche et panse ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Il le fait monter sur sa propre monture. Il l'amène à l'auberge et prend soin de lui. Le lendemain, il sort 2 pièces d'argent. Il les donne à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Ce que tu dépenseras en plus, moi je te le rendrai lors de mon retour. » À ton avis, lequel des trois est devenu le prochain de l'homme tombé parmi les bandits ?
Le spécialiste de la Torah répond
« Celui qui a fait la miséricorde envers lui. »
Jésus lui dit
« Va, toi aussi, fais de même. » Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Une histoire que nous connaissons bien, trop peut-être. Aussi, il nous faut essayer de la regarder d'un œil neuf pour que cette histoire nous parle encore aujourd'hui.
Alors, comme à notre habitude, citons le texte. Il se trouve dans la section de l'Évangile de Luc qui décrit la montée vers Jérusalem et vers la croix. Cette section s'est ouverte par l'envoi des 72 disciples en mission dans les villages de Samarie. À leur retour, Jésus et les 72 sont enthousiastes. « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Mais Jésus va reprendre ses disciples pour donner ses vraies valeurs. « Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. » Et Jésus va faire monter vers le Père son action de grâce, car les petits et les humbles accède au mystère de Dieu.
À cette heure, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit de sainteté. « Je te bénis, Père, d'avoir caché cela à des sages et à des savants, et d'avoir révélé à des tout-petits. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. »
Et cette révélation des mystères de Dieu aux petits se fait par le Fils, et la parole du bon Samaritain qui va faire suite va illustrer ce thème. Cette parabole vient en réponse à une question posée par un spécialiste de la Torah. La Torah, nous le savons, c'est la règle de vie donnée par Dieu à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Seigneur, que faire pour vivre de Dieu ? Vivre de Dieu, c'est ainsi qu'on pourrait traduire hériter de la vie d'éternité. Cette vie d'éternité, c'est bien sûr la vie divine, et elle nous est donnée dès maintenant. C'est dès ici-bas que nous sommes invités à vivre de Dieu, à vivre avec Dieu. La question est posée par un savant, un spécialiste de la Bible. Souvenons-nous que dans son action de grâce, Jésus s'est réjoui de ce que la vie de Dieu est plus facilement accueillie par des gens simples que par des savants. À cette question, qui concerne le comment vivre de vie divine, quoi faire pour en vivre, Jésus ne répond pas directement. Il interroge celui qui est le spécialiste de la loi. « Dans la Torah, que lis-tu ?» Et le spécialiste va répondre en résumant toute la Torah par le double précepte de l'amour de Dieu et du prochain. Dans les passages parallèles de Matthieu et de Marc, on trouve une confirmation de cela. En Matthieu, Jésus s'exprime sur l'unité de l'amour de Dieu et du prochain en disant « Toute la Torah et les prophètes est suspendue à ces deux préceptes. » Dans le récit de Marc, il dit qu'aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que toutes les offrandes sacrées et les sacrifices. Ici, Jésus va reprendre une phrase que l'on trouve dans le prophète Osée.
Car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes.
Ainsi, cette Torah, cette règle lourde de 613 règlements, est résumée par ces deux préceptes que même les petits et les gens peu instruits peuvent retenir et comprendre. Voilà quelle est la droiture de cœur qui est demandée par Dieu, aimer Dieu et son prochain. Mais Jésus va aller plus loin. Une nouvelle question du spécialiste de la Torah va lui en donner l'occasion. Et qui est mon prochain? Poser cette question peut nous surprendre aujourd'hui, mais à l'époque de Jésus, la question était en effet très discutée. Le mot grec, plésion, qui est le plus souvent traduit par prochain, est la traduction d'un mot araméen qui a probablement été utilisé par Jésus et qu'il vaudrait mieux traduire par compagnon. Car il veut dire en effet « celui avec qui je prends le repas ». Or on sait que le mot français « compagnon » signifie « celui avec qui je partage le pain, le copain », en est le diminutif. « Compagnon » vient en effet du latin « cum » avec et « panis » pain. La question est donc « qui est celui avec qui je peux, avec qui je dois partager le repas ?» Au temps de Jésus, prendre un repas avec quelqu'un est en effet considéré comme un acte sacré. Il signifie la communion entre les convives. Les Juifs se scandalisent en effet que Jésus accepte de partager la table avec des gens qui collaborent avec l'ennemi qui est un païen, l'ennemi romain, ou avec des gens qui sont considérés comme des pécheurs publics. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient, disant aux disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» On connaît le proverbe « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Les Juifs pouvaient dire « Dis-moi avec qui tu manges, je te dirai qui tu es, un Juif fidèle à la Torah ou bien un hérétique ». Pour la majorité de ceux qui interprétaient la Torah, le compagnon dont parle la Torah, c'était d'abord le compatriote, le juif. Donnons quelques exemples qui sont tirés du livre du Lévitique.
Ne violente pas, n'agis pas avec fausseté au détriment d'un compatriote. N'exploite pas ton compatriote, juge avec justice ton compatriote. C'est ainsi que tu aimeras ton compagnon comme toi-même.
Si on était un juif, disons libéral, on pouvait certes inclure dans cette liste des compagnons les païens, à condition bien sûr qu'ils soient convertis et qu'ils adoptent tous les préceptes de la Torah. Par contre, certains pharisiens plus conservateurs ne voulaient même pas manger avec des pharisiens qui n'étaient pas de leur confrérie. Un autre groupe juif, les Esséniens, des gens très pieux, disaient qu'ils n'étaient pas tenus d'aimer les fils de ténèbres, c'est-à-dire les autres juifs. Eux, en effet, se nommaient les fils de lumière. Des rabbins enseignait aussi que l'on devait pousser dans la fosse tous les hérétiques, les délateurs, les renégats. Enfin, Jésus rappelle sans doute une maxime populaire de son temps qui excluait l'adversaire personnel. On vous a dit « tu aimeras ton compagnon, mais tu n'as pas besoin d'aimer ton adversaire ». Voilà donc dans quel contexte se trouve posée la question du spécialiste de la Torah. Parmi les gens, comment distinguer ceux avec qui on peut manger ? Jésus va répondre par une histoire. Jésus va donc répondre par l'histoire du Samaritain. Au temps de Jésus, la route de Jérusalem à Jéricho était une route dangereuse. Au IVe siècle, Jérôme l'appellera la route du sang. Il y a une trentaine de kilomètres entre Jérusalem et Jéricho, et la route est en descente, 1000 mètres de dénivellation. Cette route montagneuse était bordée de cavernes et était donc un lieu idéal pour du brigandage. Les commerçants qui l'empruntaient étaient en effet souvent dévalisés. Aujourd'hui, cette petite route, qu'on appelle la route turque, est doublée depuis peu par une grande route plus sécuritaire.
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tombe au milieu de bandits.
Un homme est donc assailli, brutalisé, laissé à moitié mort. Et voilà que deux hommes, qui sont des ministres du culte du temple, vont passer sans se préoccuper du blessé. Et c'est au contraire un Samaritain qui va s'en émouvoir, le conduire à l'hôtellerie où il prend soin de lui, partager avec lui le pain et le confier à l'hôtelier. Nous pouvons déjà être surpris du fait que ce soit un Samaritain qui accomplit la règle de l'amour. Cette histoire devait choquer vivement les Juifs et surprendre peut-être les Samaritains. On se souvient en effet que les Samaritains sont considérés avec mépris par les Juifs. Pour eux, pour les Juifs de Judée, les Samaritains sont des hérétiques, des métis dont le sang juif est mêlé à celui de peuples païens, dont la foi même est mélangée à des pratiques païennes, donc très peu orthodoxes. De plus, l'histoire nous dit que des Samaritains avaient souillé le temple de Jérusalem quelques années auparavant. Durant les fêtes juives de la Pâque, des Samaritains avaient en effet répandu de nuit des ossements humains dans le temple, ce qui avait ravivé une haine pleine d'émotion entre les deux camps. Jésus voulait-il provoquer les Juifs en mettant en scène ce Samaritain comme étant le véritable fidèle à la Torah ? Eh bien, nous allons voir que Jésus va aller encore plus loin, car il se désigne peut-être lui-même comme étant le Samaritain.
Pourquoi peut-on voir Jésus dans ce Samaritain ?
Eh bien, il est dit que le Samaritain est ému jusqu'aux entrailles devant le blessé. Or, ce verbe, être ému jusqu'aux entrailles, n'est utilisé dans les récits évangéliques synoptiques que pour Dieu et pour Jésus. Ces mots se trouvent en effet en Matthieu pour décrire le maître qui a deux serviteurs qui sont en dette envers lui.
Ému jusqu'aux entrailles ? Le maître laissa aller ce serviteur et lui remit sa dette.
Il est clair que dans cette parabole, le maître représente Dieu. Dans le récit de Luc, le même verbe est employé pour parler du père de l'enfant prodigue.
Comme il était encore loin, son père l'aperçut, fut ému jusqu'aux entrailles et courut se jeter à son cou en le couvrant de baisers.
Là aussi, ce père représente Dieu. De plus, nous savons que Jésus a raconté cette histoire du père miséricordieux et de ses deux fils, qu'on appelle le père prodigue, pour justifier sa propre conduite à lui, Jésus, envers les pécheurs, et pour cela la justifier devant les pharisiens qui l'accusaient.
Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux.
Ailleurs, Jésus expliquera sa mission en disant « Je ne suis pas venu pour les gens qui se croient justes, mais pour les pécheurs qui ont besoin d'être sauvés. » Le Samaritain ne représentera-t-il pas alors Jésus qui guérit celui qui a besoin d'aide, et cela, quelle que soit sa condition? Les deux ministres du culte représentent sans doute les faux pasteurs, ceux qui laissent dévorer leurs brebis par les loups. Lisons ce passage de l'écrit de Jean, avec lequel on peut faire un rapprochement.
Le berger mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, quand il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il prend la fuite.
Mais il y a peut-être un autre indice que Jésus se décrit lui-même à travers le Samaritain. Le Samaritain confie le blessé à l'hôtelier et il lui dit qu'il réglera les frais lors de son retour. Eh bien, cela peut être compris comme l'annonce du retour du Christ au dernier jour. En effet, l'expression « lors de son retour » ne se trouve dans l'écrit de Luc que dans la parabole du roi et de ses serviteurs au chapitre 19. Ce roi part en voyage, confie l'administration de ses biens à des serviteurs et lors de son retour, il règle ses comptes. Cette parabole parle précisément du Messie et de son retour à la fin des temps. Enfin, ajoutons encore que dans l'écrit de Jean, Jésus a été traité de Samaritain, sans doute parce qu'il interprète la Torah d'une manière différente des scribes et des pharisiens.
N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et un possédé?
Eh bien, à cette accusation, Jésus va se défendre. Mais il se défendra de la première accusation. « Non, je ne suis pas un possédé », répond-il dans l'écrit de Jean. Et il ne réplique rien à propos de l'épithète de Samaritain. Peut-être parce qu'il refuserait de considérer l'appellation de Samaritain comme une injure. Bien plus, il se dirait lui-même le Samaritain, comme il se dira le malade, l'étranger, l'affamé, l'emprisonné, celui qui est rejeté. Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. L'étymologie du mot samaritain veut dire dans la langue juive le gardien. Eh bien, Jésus est le bon samaritain, le bon gardien, comme il est le bon berger, le bon pasteur qui va à la recherche de la brebis perdue. Enfin, en étant le bon samaritain, Jésus imite le Dieu Père, plein de compassion, qui lui aussi est ému jusqu'aux entrailles. Ainsi, cette parabole vient d'être illustrée la remarque de Jésus. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils le fait connaître. Le bon Samaritain est le Fils bien-aimé de Dieu, qui agit comme le Père, et nous fait ainsi connaître comment le Père divin agit. Soyez miséricordieux, comme le Père est miséricordieux. Ainsi, pour le disciple de Jésus, le compagnon ne doit pas être seulement le compatriote. Déjà, dans la Torah, on trouve cette consigne.
L'étranger qui réside avec vous sera pour vous un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même.
Eh bien, Jésus va généraliser cette règle en demandant de considérer comme compatriote non pas simplement l'étranger qui réside dans le pays, mais tout être humain, quel qu'il soit, tout être humain qui est blessé, tout être humain qui a besoin. Comme le dit la parabole du jugement dernier, le vrai Fils de Dieu doit partager son pain avec celui qui a faim, celui qui est malade, celui qui est étranger, celui qui est en prison. Tous ces gens énumérés par Jésus sont des personnes qui n'ont rien à rendre, rien à donner en retour à ceux qui les aiment. Et donc, qu'on ne pourra pas aimer avec une motivation intéressée. L'amour des malades, des pauvres, des étrangers et des prisonniers ne peut être en effet qu'un amour gratuit. Et cet amour gratuit est un amour divin, un amour à la manière de Dieu, un amour à la manière du Fils de Dieu.
Moi je vous dis, aimez vos adversaires et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père divin, qui fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Si vous saluez seulement vos frères, les païens n'en font-ils pas autant? Vous, vous serez parfaits comme votre Père divin est parfait.
Aimer ceux qui nous aiment n'est pas suffisant pour prétendre aimer véritablement. Une telle solidarité existe aussi dans les pires bandes de truands. Aujourd'hui, aux Juifs et aux Samaritains ont succédé les immigrés et les Québécois de souche, les Blancs et les Noirs, les salariés et les patrons, les Tutsis et les Hutus, les Bosniaques et les Serbes, les Russes et les Tchétchènes, les chrétiens intégristes et les chrétiens progressistes. Chacun de nous peut faire sa propre liste de ceux qu'il laisse de côté, de ceux qu'il n'invite pas à sa table, de ceux dont il ne se fait pas un compagnon, un prochain. Écoutons Mère Teresa.
La plus grande maladie actuelle n'est pas la lèpre ni la tuberculose, mais le sentiment d'être indésirable et abandonné de tous. Le plus grand péché est l'absence d'amour et de charité, la terrible indifférence au prochain.
Spécialiste de la Torah voulait faire préciser qui doit être son compagnon. Il le faisait à partir de lui-même, placé au centre. Ainsi, ses compagnons sont d'abord sa famille, puis ses amis, puis ses compatriotes, puis les étrangers convertis, les cercles se faisant de plus en plus larges. Jésus, au contraire, place au centre le pauvre, le malade, le prisonnier, tous frères et toutes sœurs qui ont besoin. Il réintroduit les marginaux au centre de la communauté, en son cœur, et chacun est invité à se faire le compagnon, le proche de celui, de celle qui a besoin d'être aimé.
Mais qui est capable d'un tel amour?
Celui qui se pose cette question doit faire sienne la réponse de Jésus. Va, et toi aussi fais de même, fais cela et tu vivras. Il est invité à faire tout ce qu'il peut. Il n'y a pas de limite à la miséricorde. Lorsqu'il s'agit d'aimer, il ne peut y avoir de calcul, de comptabilité. Mais cela, bien sûr, demande de faire confiance, car ce qui nous est impossible seul devient possible avec la grâce, l'amour généreux de Dieu. En effet, aimer ainsi, au-delà le plus souvent de la sensibilité, n'est possible que si nous accueillons en nous le Christ et la force de son Esprit. Alors nous aimerons d'un amour qui nous fait hériter de la vie d'éternité. Nous nous ouvrirons à ce don de Dieu qui nous fera devenir fils et filles divins. Et les plus humbles sont peut-être même les plus prêts à vivre cette miséricorde. Pourquoi ? D'abord parce que lorsqu'on ne sait pas briller aux yeux des autres par le discours, en maniant aisément les idées et les mots, on va peut-être plus facilement à l'essentiel qui est d'agir. Souvent, les intellectuels croient qu'ils agissent parce qu'ils savent parler de ce qui est bien de faire. Jésus disait, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut faire la volonté de Dieu. La lettre de Jacques reprend cela.
Soyez les réalisateurs de la parole, et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à quelqu'un qui observe son visage dans un miroir. Il s'est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. Celui qui s'est penché sur la loi parfaite de la liberté et s'y est appliqué, non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là trouvera le bonheur.
Mais surtout, ce sont les plus humbles qui sont les plus prêts à vivre de miséricorde, parce qu'ils sont les plus disposés à accueillir l'amour gratuit, l'amour de Dieu et celui de leur prochain. N'ayant rien à donner en retour à cause de leur propre pauvreté, ils sont plus sensibles aux dons généreux et gratuits. C'est ainsi qu'ils reçoivent et qu'ils donnent, comme le bon Samaritain, comme le Fils bien-aimé, qui nous révèle le Père, par sa miséricorde qui prévient, suit, entoure, pardonne, couronne, sa miséricorde qui a une longueur, une largeur, une profondeur, une hauteur, sa miséricorde qui est de toujours, pardonnant jusqu'à 70 fois cette fois, ramenant sur l'épaule la brebis égarée, balayant la maison à la recherche de la monnaie perdue, remettant les 10 000 talents qui sont de dette, bandant les plaies de l'homme laissé à demi-mort, allant joyeusement à la rencontre du Fils prodigue. Par sa miséricorde, enfin, qui accueillit Pierre après son reniement, convertit Paul le blasphémateur, délivra la femme surprise en adultère, accueillit Marie-Madeleine, ouvrit le paradis aux larrons.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission La cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
Le numéro 514-256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet. Voici l'adresse de notre site, les www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal, en un seul mot et sans trait d'union, relaismontroyal.com. Vous pouvez vous abonner soit au feuillet, soit aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.